RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Tiens, si on fumait une cigarette en studio, non, je plaisante, évidemment, c'est complètement interdit. Et surtout, en ce premier jour du mois de novembre, puisque c'est le coup d'envoi d'un vrai défi du mois sans tabac qui démarre aujourd'hui. On va en parler avec vous, les auditeurs, au 3210 et avec le professeur Albert Hirsch, vice-président de l'Alliance contre le tabac, qui est en studio avec nous. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, une opération pour sensibiliser sur les dangers du tabac et surtout pour aider les fumeurs à arrêter la cigarette quand on sait que c'est bien difficile. Il y a 180 000 personnes qui ont participé l'an dernier. Actuellement, selon le site internet de l'opération, il y a déjà près de 110 000 inscrits qui démarrent le défi. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Quel message passer là, ce midi, en leur souhaitant bon courage d'abord, hein?
On peut leur dire que ça vaut toujours la peine d'arrêter, même quand on a fumé beaucoup, même quand on a fumé longtemps, et que c'est difficile, mais c'est possible, et que tous les efforts qui sont faits au niveau déjà des lois, de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, etc., et au niveau individuel et au niveau collectif, avec donc cette campagne qui démarre, qui est une campagne puissante de Santé publique France, qui est relayée par nombreuses associations, dont la Ligue contre le cancer. Je suis administrateur de la Ligue contre le cancer, et c'est un des éléments essentiels de la lutte contre le cancer. On peut leur dire qu'on les aide, que ce sont des victimes. Ils ne sont en aucun cas responsables. Ce sont les victimes de l'industrie du tabac qui s'engraissent sur leur santé.
Et alors donc, ça sera une étape, ces 30 jours, se passer de cigarette pendant 30 jours?
Oui, alors on a... Oui, absolument. On a alors la campagne, c'est donc le second mois de novembre sans tabac. La campagne de l'année précédente va être évaluée de manière scientifique à l'occasion du baromètre santé. Les résultats seront publiés à l'occasion de la journée mondiale sans tabac le 31 mai 2018. Mais on a un précédent qui est que en Angleterre, ça existe depuis 2012, et donc cela permet d'augmenter les chances d'arrêter par un facteur 5, donc c'est tout à fait considérable. Oui, c'est pas mal.
On va pas traîner, on va donner la parole aux auditeurs, justement, à ceux qui ont réussi ou échoué dans leur tentative. Philippe nous rejoint, auditeur de l'Essonne, et qui a arrêté il y a 7 mois. Bonjour Philippe, d'abord, bienvenue et bravo. Hein.
Bah, merci, bonjour Stéphane, bonjour Bénédicte, bonjour. Et bonjour professeur Hirsch.
Vous avez fait comment?
J'en avais un peu ras-le-bol, j'ai fumé quand même pendant 30 ans, et j'ai un ami qui est parti, malheureusement, qui nous a quittés, il est tombé malade suite à la cigarette. Mmh. Et ça m'a fait un gros déclencheur psychologique dans la tête, et du coup, je me suis dit, j'arrête de fumer, je veux pas finir comme ça. Et puis, je suis allé voir mon pharmacien de quartier, qui m'a posé lui-même un petit questionnaire de routine, et puis il m'a déclaré comme quoi que je devais commencer par des patchs à 21 mg, parce que je fumais quand même entre un paquet et un paquet et demi de cigarettes par jour.
Grand fumeur donc. Hein.
Gros fumeur, 200 euros par mois à peu près, donc voilà, comme on est deux en plus à la maison, ça fait quand même à l'année 4800 euros. Ça fait réfléchir quand on prend les sommes hein, comme ça. Donc ça nous a permis cette année de commencer à partir un peu plus loin en vacances. On en profite déjà. On fait des belles économies. Et en fin de compte, pour en revenir à l'arrêt, au bout d'un mois et demi, j'avais arrêté carrément les patchs. Je sentais vraiment plus du tout l'utilité d'utiliser des patchs.
Patch a suffi pour arrêter en tous les cas, Philippe. Alors, en plus patch, de la volonté, hein, bien sûr.
Voilà, donc une énorme volonté. Le patch a littéralement suffi parce que je m'étais même dit dans ma petite réflexion, j'en avais parlé aussi avec mon pharmacien, vaut-il pas mieux faire aussi en même temps en parallèle des patchs, prendre une cigarette électronique? Donc il m'avait dit oui, vous pouvez, si ça peut vous aider, si vous avez le geste de la cigarette en main. En fin de compte, le geste, je ne l'ai pas du tout. Hein, j'ai jamais eu le geste à la main, donc de la cigarette. Et j'ai... En fin de compte, il me restait 5-6 clopes dans mon paquet quand j'ai commencé les patchs. Je les ai fumés. Et puis, les patchs ont commencé. Je ne vous dis pas que les 3 premiers jours ont été les plus durs. Mmh. Je vis avec un copain depuis 10 ans qui me dit « Oh là là, tu t'arrêtes de fumer ?» Il me dit « Ah, qu'est-ce que tu vas être chiant !» Et à direct. Et puis, en fin de compte, il m'a surpris aussi parce que, en fin de compte, c'est un programme qu'on a fait à deux. On l'a fait tous les deux et on a arrêté tous les deux quasiment en même temps. Bon, lui, 3 jours après moi. Mais il est arrivé un soir avec son petit paquet. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade? Il me dit, bah ouais, je suis malade, je viens de passer à la pharmacie. Et il a ouvert son paquet, c'était des patchs aussi. Mmh. Il me dit, tu le fais, donc je le fais aussi. Voilà. Et depuis, ça fait 7 mois, on n'a plus du tout besoin de clopes. Alors je ne cache pas qu'on a toujours la petite envie quotidienne. Mmh.
Voilà. Professeur Hirsch, voilà. Justement cette période de transition, au bout de combien de temps on peut se dire, ça y est, je ne fume plus?
Écoutez, chaque jour sans tabac est un jour qui compte. Mais on ne peut jamais dire, c'est totalement fini. D'ailleurs, Philippe le dit bien, hein, il a toujours cette petite envie. Mmh. Mais dans le témoignage de Philippe, que je remercie, il y a plein de choses. Hein. D'abord, il a rencontré un professionnel, un pharmacien, professionnel de proximité. Ensuite, il avait mûri son affaire, Philippe, parce qu'il avait bien fait le décompte. Au niveau de la santé, il avait perdu un proche. Et au niveau économique, 4 800 euros par an. Et puis ça va augmenter, hein, parce que le paquet en mars 2018, il va passer à, il va être augmenté, il va passer à 8 euros. Hein. Ouais. Bon, et puis ensuite, il a fait ça avec un copain. Hein, bon, c'est une expérience réussie. C'est une expérience qui est difficile, mais elle est exemplaire, hein, absolument exemplaire, parce qu'il y a tout, dans ce témoignage.
Philippe qui nous passe un coup de fil de Morangis dans l'Essonne et qui reste avec nous, bien entendu. On va écouter Gilles dans un instant depuis le Val-de-Marne. Vos coups de fil, justement, sur ce mois sans tabac avec le professeur Albert Hirsch. Vous êtes les bienvenus. Vos coups de fil au 3210 standard, accessible dès maintenant. Vous allez cliquer et vous êtes les bienvenus aussi sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Bon appétit à vous. Il est 13h11. On se retrouve juste après ça.
Stéphane Carpentier,
Bénédicte Tassard.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
C'est le mois de novembre et c'est le mois sans tabac. Et avec nous le professeur Albert Hirsch. On accueille au 3210 Gilles. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Vous nous appelez du Val-de-Marne?
Oui.
Et vous êtes un ancien fumeur, très ancien fumeur même.
Écoutez, j'ai 58 ans. Mmh. J'ai commencé à fumer, j'avais à peine 14 ans, et il y a 10 ans, j'ai décidé d'arrêter. Je finis ma cartouche et c'est terminé. Donc la cartouche s'est terminée un dimanche soir et je suis parti lundi matin au travail sans cigarette.
Et c'était quoi le déclic, hein?
Je m'étais dit, voilà, je finis la cartouche. Et ensuite, j'arrête tout.
Et vous avez arrêté sans aide, tout seul?
Non, sans aide. Il n'y a pas de patch, il n'y a pas de Nico, machin. Non, c'était vraiment...
Tout à la volonté, quoi, Gilles.
C'était
tout à la volonté, ouais. Vous étiez un gros fumeur, Gilles?
À peu près un paquet et demi par jour. Mmh. De gitane sans filtre, donc ça fait mal. Mais j'ai arrêté, voilà, ça fait 10 ans et j'en suis fier. Mmh. Et ce que je voudrais dire, c'est apporter mon témoignage aux gens qui veulent arrêter, qui sont d'un côté et de l'autre de la crête, pour éviter de tomber à gauche ou à droite, qui suivent leur instinct, leur mentalité, leur
intuition.
Voilà.
Professeur Hirsch, pour les gros fumeurs, c'est vraiment difficile d'arrêter.
Oui,
de fumer.
C'est très difficile parce que, une fois de plus, l'industrie du tabac fait tout pour les accrocher en manipulant le produit. Et le témoignage de Gilles est très intéressant parce que il a arrêté, dit-il, tout seul, par la volonté. En réalité, c'est jamais tout seul. C'est parce que, en fait, la société est devenu finalement de plus en plus sans tabac. Nous sommes sur une radio française.
On entend les messages.
Et la campagne là du mois de novembre sans tabac est un élément très très important parce que bon, il y a une campagne sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Il y a France Télévisions qui est motivée. Il y a Santé Publique France. Il y a toutes les associations, l'Alliance contre le tabac, la Ligue contre le cancer, etc. Bref, c'est un coaching social pour aider les fumeurs à arrêter pour déclencher l'arrêt. Alors, il faut se rendre compte que on va recruter, donc là, vous me dites qu'il y a déjà 100 000 personnes qui ont été recrutées finalement au premier jour, donc ça va être tout à fait considérable. On va, on espère, engranger des tentatives d'arrêt de 24 heures, puis d'une semaine, c'est très progressif. Hein. C'est une procédure qui est très progressive pour arriver finalement à se débarrasser de ce poison numéro un qu'est la cigarette.
On retrouve Gilles, notre auditeur de Val-de-Marne. 10 ans que vous avez arrêté. Gilles, est-ce qu'il y a eu un vrai changement sur vous, sur votre physique? Est-ce que vous vous sentez mieux du coup?
Eh bien, écoutez, bien sûr, ça peut pas être nocif. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens qui sont sur le point de vouloir arrêter, c'est facile de dire ça, il faut, mais qu'ils comprennent que on se fixe une date, éventuellement un lieu, et on dit voilà, c'est terminé. C'est tout bête, hein, mais. Et après, bon, pendant 15 jours, 3 semaines, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a quand même une forme d'addiction, hein, oui. Il ne faut pas se cacher.
Pas qu'une forme.
Mais maintenant, j'en suis arrivé, ça m'énerve, mais j'en suis arrivé à un point où je suis intolérant envers les fumeurs.
Vous sentez plus l'odeur ?
Pardon ?
Vous sentez l'odeur de la cigarette vous gêne ?
Je la repère, mais je la repère à 100 mètres. Ça m'énerve. Mais je respecte les fumeurs. Je ne veux pas non plus dénigrer tout le monde. Mais je me dis, ces gens-là, surtout les jeunes, j'ai une fille de 23 ans, vous voyez, elle fume. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu fumes ? Ça te sert à quoi ?
Professeur.
Oui, Gilles, vous êtes intolérant, non pas aux fumeurs, d'ailleurs vous venez de le dire, mais au tabac. Vous ne supportez plus le tabac. Mais les fumeurs, le fumeur que vous avez été, la fille que vous avez qui fume, en réalité, c'est une victime de l'industrie du tabac. Et donc, comme toute victime, il faut d'une part reconnaître que c'est une victime et qu'il ou elle n'est pas coupable. Et d'autre part, il faut l'aider à arrêter. Alors, c'est très difficile, mais effectivement, les opérations en cours, le mois sans tabac, notamment, y contribuent.
Le mois sans tabac et tous les fumeurs et ex-fumeurs qui prennent la parole. Je voudrais juste saluer Olivier qui nous passe un coup de fil depuis le Nord. Bonjour Olivier.
Bonjour, vous allez bien ?
Ça va très bien. Vous avez fumé pendant 30 ans. Vous allez tout nous dire juste après ça. Restez en ligne, à tout de suite.
Ok.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Nous sommes le 1er novembre de cette année 2017. C'est jour de Toussaint et vous êtes nombreux aujourd'hui à vous déplacer dans les cimetières pour vous recueillir, pour fleurir les tombes de vos proches. On en parlera tout à l'heure. Je vous appelle à nous passer un petit coup de fil au 3210 pour savoir si c'est toujours une vraie tradition. C'est-à-dire que si vous faites toujours le déplacement, jeune ou moins jeune, est-ce que vous respectez ce rendez-vous justement ? Est-ce que vous allez dans les cimetières ? Quelle est la place de la crémation aujourd'hui aussi ? C'est important de pouvoir en parler. On peut parler des tarifs aussi, des interventions des pompes funèbres. Voilà, vaste sujet qu'on vous propose. Vous nous appelez dès maintenant au 3210-3210. On revient à notre mois sans tabac, Bénédicte, et on accueille Olivier, donc, qui est dans le Nord et qui a fumé pendant 30 ans. Hein.
Oui, bonjour Olivier.
Bonjour.
Donc vous nous appelez de Villeneuve-d'Ascq.
Oui.
Et vous avez arrêté il n'y a pas longtemps, hein ? Juste avant le mois sans tabac.
En fait, j'ai arrêté le 6 octobre, pour être précis, donc il y a 3 semaines. Quoi.
Et alors, vous vous sentez comment ?
Ah ben, je me sens bien mieux. Je me sens moins essoufflé, je me sens... Enfin, j'ai juste un souci, si vous voulez, c'est que je fais 1m87 et 110 kilos. Donc, mon appétit s'est décuplé et j'ai du mal de ce côté-là. Quoi, hein.
C'est
j'ai
difficile beau me faire de résister.
J'ai beau me faire des petites courgettes sans trop d'huile, non, c'est difficile de résister. Et c'est vrai qu'on a faim, mais on est tellement content dans sa tête. Parce que, bon, j'avoue que j'ai arrêté 3 fois déjà. Hein. J'ai 65 ans, je suis un jeune retraité. Les 2 fois précédentes, ça a été relativement facile, je dirais. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Et là, cette fois-ci, je m'étais mis dans la tête que j'allais arrêter. Bon, je suis entouré d'enfants qui font du sport aussi. Et bon, ils trouvaient ça un peu gonflé que je fume. Et ils voyaient bien que c'était, je sentais bien que j'étais un peu essoufflé, que c'était pas bon pour ma santé. Donc j'avais vraiment la volonté de m'arrêter de fumer. Bon, sur la fin, je fumais 7 ou 8 cigarettes, donc ça allait entre guillemets. D'ailleurs, entre parenthèses, bon, une fois, je suis tombé sur un toubib qui m'a dit « Ah, vous fumez 7 ou 8 ?» Bon, bah, c'est pas grave. Hein, bon, quand j'avais dit ça à ma femme, quand j'étais marié, maintenant je suis divorcé, mais quand j'ai dit ça, elle m'a dit « Non, mais c'est dingue. » Bon, c'est dingue. Et c'est vrai que c'est dingue, ça, d'entendre des choses comme ça.
Mais là, vous sentez dingue. Que c'est la bonne. Vous sentez que c'est la bonne, celle-là.
Ah oui, 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 oui. Là, honnêtement, je sais que dans ma tête, c'est tout, je ne refumerai pas. Ouais. D'ailleurs, il y a 2 jours, quelqu'un fumait. Alors moi, c'est paradoxalement, d'ailleurs, c'est l'inverse de ce que disait le monsieur tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a fumé à côté de moi, j'ai trouvé ça très agréable. Sincèrement, c'était agréable.
Agréable, mais pas d'envie de reprendre, du coup.
Mais ouais, mais pas du tout envie de reprendre. Donc j'étais encore plus satisfait. Et d'ailleurs, la personne m'a proposé une cigarette que j'ai refusée.
Professeur Hirsch, quel conseil on peut donner donc à Olivier qui a arrêté il y a 3 semaines?
Ben, d'abord, je retiens que les enfants autour d'Olivier ont joué un rôle. Hein. Bon, alors effectivement, le risque de prendre du poids, il est réel, hein, absolument. Il ne faut pas le négliger, il est souvent important. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'une part, ça va se tasser. D'autre part, le fait de prendre quelques kilos... C'est certes désagréable, notamment pour, mais pas que pour les femmes, mais pas que pour les femmes. D'ailleurs, Olivier en témoigne bien, mais c'est infiniment moins dangereux que le fait de continuer à fumer. Et ce simple, finalement, conseil ou constatation va aider beaucoup de fumeuses et de fumeurs à franchir le pas. Prendre quelques kilos, oui, et à condition de faire attention, de faire de l'activité physique, sans faire des sports de marcher une demi-heure par jour, ça suffit habituellement à équilibrer son poids et revenir à un poids tout à fait correct.
Je me tourne vers notre premier auditeur tout à l'heure, Philippe, dans l'Essonne, qui a arrêté il y a 7 mois avec beaucoup de bonheur aujourd'hui. Est-ce que justement vous avez eu des petits problèmes de poids par rapport à tout ça ?
Alors effectivement, j'ai pris de mon côté, j'ai pris quand même 8 kilos depuis 7 mois. Bon, c'était 8 kilos, mais ça a été pris assez rapidement. Bon, je m'en fais pas trop, parce que comme le dit le professeur Hirsch, c'est au début. Après, ça commence déjà à partir un petit peu. En plus, je fais quand même du sport depuis 5 ans. Donc tous les matins, voilà, je fais mon petit footing, je fais un peu de musculation, on fait du rameur, on fait du vélo. Voilà, donc ça me pose aucun problème d'avoir pris autant de kilos. Voilà, je suis à 68 kilos au lieu de 60. Bon, c'est pas trop méchant. En taille, je fais 1m69.
D'accord, Philippe, merci. Voilà. Merci de la précision et de votre témoignage, tout comme Gilles et Olivier qui ont participé à ce débat, à ce mois sans tabac qui s'ouvre aujourd'hui en ce 1er novembre. Et on souhaite bonne chance à tous ceux qui m'ont tenté le défi. Bien entendu, vos appels, c'est au 3210 et vous pouvez continuer à commenter tout ça sur notre page Facebook. RTL, les auditeurs ont la parole. Bénédicte, on a une chose à préciser, évidemment,
oui,
avec
professeur Hirsch, pour ceux qui veulent arrêter de fumer dans ce mois sans tabac, où vont-ils se rendre ?
Eh
sur
bien,
Internet.
Vous allez sur Internet. Tapez « Moi sans tabac », vous allez sur Facebook, vous allez sur Snapchat, vous allez tout sur les réseaux sociaux et vous trouvez absolument les coordonnées pour s'inscrire sur « Moi sans tabac ». Soyez nombreux, je sais que vous serez nombreux.
Merci professeur de nous avoir accompagnés. Dans un instant, on va écouter des auditeurs et des auditrices qui veulent réagir à l'augmentation des tarifs des consultations complexes. On en a parlé dans RTL Midi avec notre invité aussi à 12h50 tout à l'heure. Il y a des choses à dire, 46 euros, 60 euros pour certaines consultation complexe ou très complexe. Les réactions au 3210 juste après ça.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Vous avez choisi, chers auditeurs, de revenir au 3210 sur l'augmentation des tarifs des consultations complexes ou très complexes. On en a parlé dans RTL Midi, invité tout à l'heure à 12h50 également. On passe à 46 ou 60 euros selon les interventions et les consultations, donc, pour des cas particuliers. Ça fait réagir avant d'écouter les auditeurs au 3210. Laurent Tessier sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Hein.
Ouais, la question, trouvez-vous normal d'augmenter les tarifs des consultations dites complexes? Pourquoi pas, tant qu'on y est, payer 5 ou 10 euros quand on vient faire renouveler une ordonnance en 5 minutes, nous dit Virginie. Merci madame, au revoir. Vous souffrez d'un cancer, ça fera 60 euros. C'est une double peine. Pour Catherine, avant d'aller plus loin, il faudrait que les médecins gèrent mieux leurs patients. Ce n'est pas normal, nous dit Sandrine. Nous sommes de moins en moins bien soignés. Les consultations sont toujours rapides à cause du monde dans les salles d'attente. Bientôt, on fera pareil en maison de retraite. Une toilette simple coûtera tant, une douche sera plus chère, du grand n'importe quoi. Mais cette mesure est normale pour Sofred. Les médecins sont payés à la valeur de leur travail. Ils ont des journées très dures. En France, on est quand même bien remboursé pour les actes médicaux.
Voilà, les avis sont les bienvenus. C'est Laurent qui suit tout cela sur notre page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Et Bénédicte, coup de fil donc au 3210.
Coup de fil de Christine. Bonjour Christine.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez, du Maine-et-Loire. Oui. Vous nous avez contacté par la page Les auditeurs ont la parole sur Facebook. Vous êtes médecin généraliste et pour vous, c'est normal. Payer 46, 60 euros pour une consultation complexe, c'est normal.
Alors d'abord, bon, moi j'ai 56 ans, ça fait 27 ans que je suis installée en milieu rural. Et c'est vrai que je trouve que c'est une grande avancée et surtout une revalorisation de la consultation. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, on n'a pas attendu le 1er novembre pour rester longtemps avec nos patients. Lorsqu'il y avait déjà des annonces à faire, eh bien les annonces, on les faisait. On n'attendait pas, on n'était pas au quart d'heure près. On passait une demi-heure, on passait trois quarts d'heure. Quand on avait des problèmes psychologiques, c'était pareil. Lorsqu'on a des enfants, des consultations d'enfants... c'est pareil, on n'est pas à un quart d'heure près. Alors c'est vrai que ça fait râler un petit peu les patients qui attendent dans la salle d'attente parce qu'on prend du temps, mais on n'a pas attendu le 1er novembre pour prendre du temps pour eux. Ce qui a vraiment changé, c'est que dans les 27 années qui se sont écoulées, maintenant j'ai l'impression d'apprécier encore plus mon travail parce qu'on a un changement véritable de la consultation. Avant, cette consultation, elle était informative, c'est-à-dire, voilà, vous allez faire ça, ça. On n'expliquait pas les choses. On faisait de la consultation pour de la consultation. Maintenant, les consultations ont carrément changé. C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas là pour dire « je vais vous soigner, vous guérir ». On est là pour accompagner les gens. Et accompagner, c'est complètement différent. C'est-à-dire déjà les motiver pour se soigner. Les motiver, ça veut dire qu'effectivement, tout comme pour le mois du tabac, eh bien, on ne pourra jamais imposer quelque chose. Donc, par exemple, si on prend la consultation pour justement la mise en place d'une contraception. On ne va pas dire à une jeune fille, voilà, tu as ça, ça, ça et ça. On ne va pas lui dire ça comme ça. On va dire, qu'est-ce que tu connais de la contraception ? Est-ce que tu as été un petit peu renseignée ? Est-ce que tu as vu avec tes amis ? Qu'est-ce qu'on t'a appris à l'école ? C'est-à-dire qu'il faut maintenant qu'on arrive à se dire que la consultation, elle vient du patient. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on verra qu'on aura une meilleure adhésion, en fait, aussi bien au traitement, aussi bien aux conduites à tenir qu'il faudra mettre en place, parce qu'on va les accompagner et non plus leur imposer des conduites.
Christine, cette évolution que vous mettez en avant, c'est quoi ? C'est aussi une reconnaissance de votre métier ?
Oui.
Et de votre rôle ?
Oui. Oui, parce que en fait, il y a très peu de temps, j'ai eu la chance de découvrir une dite spécialité qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et pour moi, ça a été révolutionnaire. C'est-à-dire cette éducation, c'est-à-dire maintenant, je me dis, j'essaye d'accompagner de façon bienveillante les patients. J'essaye de leur faire comprendre ce qu'ils ont et que les solutions viennent d'eux. C'est-à-dire dire à un patient, écoutez, voilà, vous êtes diabétique, vous n'êtes pas du tout équilibré. Qu'est-ce que vous avez encore mangé? Et appréhender un petit peu les choses en disant « Ah tiens, votre diabète n'est pas très bien équilibré, il peut y avoir des petites conséquences, mais comment vous pouvez me l'expliquer ?» Eh bien, c'est deux façons carrément différentes. Le seul problème, c'est qu'il va falloir maintenant prendre du temps. Et le temps, eh bien, c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, quand on ne va pas passer trois quarts d'heure avec chacun de nos patients pour justement prendre ce temps, et parce que ça pousse derrière. Et parce que, comme je disais sur Facebook, effectivement, il y a des rendez-vous qui seront mis que trois jours plus tard. Mais après, on est là aussi pour savoir si c'est urgent ou pas. Mais c'est ça l'important. L'important, c'est que la motivation... et la prise en charge vient du patient lui-même, et nous, on est là pour l'accompagner. Une annonce, on parle des annonces, mais on ne va pas dire à un patient, écoutez, voilà, j'ai vu vos radios, vous avez un cancer du sein. Enfin, c'est pas du tout... Vous savez qu'une mauvaise annonce... Une mauvaise annonce peut entraîner, en fait, de graves conséquences psychologiques pour le suivi.
Ouais, ce qui veut dire donc que ces consultations dites complexes à 46 ou 60 euros, bah c'est justifié, oui. Si on comprend bien, oui. Votre message.
Merci. Complètement.
Merci d'avoir pris du temps pour nous, Christine.
Je vous en prie.
On vous souhaite une belle journée. Merci. Depuis le Maine-et-Loire, médecin généraliste qui a pris la parole au 3210 3210.
Les auditeurs ont la parole
dans RTL Midi.
Et tout de suite, on va parler inhumation, crémation, cérémonie des morts en ce jour de la Toussaint avec Jean Ouélan, directeur du marketing et de la communication d'OGF. C'est bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes le leader français des services funéraires.
Tout à fait, avec notre marque première qui est PFG.
PFG, pompe funèbre générale.
C'est cela.
Merci d'être avec nous en ce 1er novembre. Vous êtes nombreux aujourd'hui à vous déplacer dans les cimetières pour vous recueillir, fleurir les tombes de vos proches. Est-ce que pour autant, la tradition est toujours respectée, Jean-William ?
Oh, il suffit de se rendre dans les cimetières, même depuis quelques jours, hein, et dans les jours qui viennent, pour se rendre compte que le cimetière, il n'a pas du tout la même physionomie qu'il y a 2 mois. Donc, en tout cas, les tombes sont fleuries, les cimetières sont des vrais jardins en ce moment, et ça ne fleurit pas spontanément. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui viennent encore dans les cimetières autour du temps fort de la Toussaint.
Et de nombreuses personnes âgées qui renoncent à aller voir fleurir les tombes, faute de pouvoir se déplacer. Finalement, est-ce que c'est une chose que vous constatez de plus en plus chaque année ? Alors, on parle du vieillissement de la population, ça les concerne aussi.
Alors, on n'a pas à y renoncer, parce qu'aujourd'hui, on peut commander cette prestation à un opérateur funéraire. Mmh. Nous le proposons depuis de très longues dates. Hein. Fait nouveau, c'est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on peut le commander depuis Internet, sans se déplacer, en restant à la maison, et faire quelque part son devoir de mémoire, et se sentir... serein.
Et avoir vraiment la certitude d'un service de qualité.
Absolument, parce que en plus, si la personne transmet son adresse mail, et c'est très facile aujourd'hui d'en ouvrir une, on envoie un bilan photo avant et après l'intervention. Donc on a vraiment la certitude que la prestation a été réalisée.
Vous restez avec nous, on va savoir dans un instant justement si les auditeurs et les auditrices accordent une importance particulière à ce jour de la Toussaint. Christiane va prendre la parole depuis Toulouse, la Ville Rose, au 3210. Vos témoignages, vos sentiments, vous êtes les bienvenus, c'est le 3210, puis vous avez la page Facebook, RTL, les auditeurs ont la parole, vous êtes les bienvenus en ce mercredi, à tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Bénédicte Tassard.
Stéphane Carpentier.
Allez-vous vous rendre dans les cimetières en ce jour du 1er novembre pour rendre hommage à vos morts ? Nous sommes avec Christiane. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Merci de votre intervention qui est très intéressante.
Merci, vous nous appelez de Toulouse ?
Voilà, de la Ville Rose, qui n'est pas si rose que ça.
Oh, mais, bon, mais quand même.
Nous avons un beau soleil, je vous l'envoie, parce que je crois que vous n'avez pas aussi beau à Paris.
Ça, c'est sympa. Et alors, est-ce que vous allez aller sur les tombes aujourd'hui ? Est-ce que vous allez aller au cimetière aujourd'hui ?
Ah non, non, je ne vais pas au cimetière aujourd'hui. Je n'aime pas le jour de la Toussaint. Bon, j'ai des personnes disparues dans ma famille. Mmh. Qui sont assez loin, vers Bordeaux, vers 250 km d'ici. Donc, et puis, je n'aime pas, ce que je n'aime pas, c'est avoir imposé un jour précisément pour aller au cimetière. Je trouve que les gens se laissent enfermer dans une case par manque de personnalité. On n'a pas besoin de nous dicter un jour pour penser aux morts. Aux défunts, soit la famille ou soit même les autres, ceux qui font pas partie de notre famille, parce que ils sont bien nombreux aussi à avoir été touchés par tous ces décès. Et je trouve que la Toussaint, c'est un but commercial. Et je pense que on a tellement de jours de congés, d'ARTT, avec cette période depuis de nombreuses années avec les 35 heures. Je pense que tout le monde a un moment dans son année pour aller, ou plusieurs fois dans l'année, pour aller fleurir un petit brin sa tombe.
Christiane, pourquoi vous dites un rendez-vous commercial ?
Oui, parce que si on enlève la Toussaint, eh ben, je pense que les fleuristes ils vont sentir passer la donne, hein, parce qu'on voit bien, les gens portent, on dirait, c'est un peu une compétition, vous allez dans le cimetière, ah ben alors ils font la tour de la tombe à côté, est-ce que lui il a porté ça plus que moi C'est vrai que c'est de la cacophonie assez, et puis en plus, j'aime pas les chrysanthèmes, et je trouve qu'on n'a pas besoin d'un jour pour aller penser à nos morts.
Voilà, vous voulez pas qu'on vous impose un calendrier en la matière et sur ce sujet-là.
Non.
Restez avec nous, Christiane, parce que vous êtes bien bavarde et c'est super. Jean Ruellan, est-ce que on peut entendre ça, c'est-à-dire que le cimetière doit être ouvert à tout moment et
Il l'est. Moi, je comprends Christiane quand elle dit qu'on n'a pas à nous imposer un jour pour le souvenir. D'ailleurs, bon, même si on a un petit peu plus de demandes autour de la Toussaint, on a des demandes d'entretien ou de réfection de sépulture toute l'année. Avant, il y avait deux temps forts. Il y avait les rameaux et la Toussaint. Les rameaux, ça s'estompe. Hein. Les dernières années, le constat qu'on fait, c'est qu'il y a un petit peu moins d'engouement autour des rameaux. Mais du coup, ça s'est lissé sur tout le reste de l'année. Et voilà. Et même l'été, on a des demandes pour entretenir la sépulture, la fleurir, voire refaire les gravures. C'est un mot compliqué, ça s'appelle le rechampissage. Voilà, tous les petits travaux de cimetière, c'est tout au long de l'année qu'on a des demandes.
Un mot sur la crémation, parce qu'on sait que ça se multiplie, que ça progresse dans notre société aujourd'hui. C'est le cas.
C'est une réalité. Aujourd'hui, c'est le choix de 37% des Français. On a un indicateur avancé au travers des contrats obsèques. Et en ce moment, les contrats qu'on fait sur l'année 2017, et bien majoritairement, le choix est fait sur la crémation. Plus de la moitié des personnes qui font un contrat en ce moment choisissent la crémation.
Et on connaît leur motivation ?
Oh, les motivations, c'est dur de les identifier au travers d'un contrat obsèque. En tout cas, elles ont bien évolué. Il y a encore 30 ou 40 ans, c'était plutôt un acte militant. Aujourd'hui, c'est juste un mode de sépulture intégré, complètement intégré d'ailleurs. Ce qui change, en revanche, c'est le regard sur le souvenir. Il y a encore 30 ans, crémation était assez souvent associé à la dispersion des cendres. Or, aujourd'hui, on a affaire à une nouvelle génération qui n'est du coup plus militante et qui choisit la crémation comme un autre mode de sépulture, mais qui a besoin de souvenirs. Et donc, on voit apparaître des nouvelles formes de souvenirs au cimetière. Alors, la première génération, ça a été les columbariums, ces cases qui sont dans les cimetières, ce mobilier cinéraire. Et ce qu'on détecte, là, les dernières années, c'est un besoin d'individualité, de personnalisation. Et donc, de plus en plus de cimetières, aujourd'hui, proposent à la vente des concessions aux dimensions réduites. On ne vend plus des terrains de 2 mètres sur 1 mètre, mais des terrains de 1 mètre sur 1 mètre, dans lesquels on va pouvoir avoir une sépulture de famille, mais exclusivement destinée à accueillir des urnes.
Christiane, quel est votre regard là-dessus, notamment sur la crémation, puisqu'on dit que ça se développe ?
Écoutez, je pense que les gens sont individualistes. Et puis, en plus, je pense qu'aussi, peut-être que c'est une histoire d'argent, car acheter un caveau, faire des obsèques avec un cercueil...
Il était également obligatoire autour de pour la crémation comme pour l'inhumation. En France, un cercueil est obligatoire.
Du même montant. Je pense que aussi au niveau des pompes funèbres, ils auraient dû plus s'adapter à la vie actuelle parce qu'elle a beaucoup changé. Et puis je pense aussi que les gens aussi se désintéressent aussi de la croyance, de la chrétienté. Je pense aussi à un côté religieux où les gens se sont aussi écartés, il me semble.
Alors, en ce qui concerne, on se dit aussi l'inhumation, enfin la crémation, ça coûte peut-être un peu moins cher que l'inhumation. On a longuement parlé sur RTL de cette enquête de Famille Rurale sur les tarifs dans le secteur des pompes funèbres, une association qui a pointé du doigt des abus, Jean Ruellan.
Oui, des abus, mais une enquête finalement qui repose sur 37 devis. Ils ont demandé à chaque agence un devis inhumation, un devis crémation. Donc ils ont été voir 18, 19 agences. Il faut savoir qu'il y a 6000 agences de pompes funèbres en France. Est-ce qu'on peut se faire une idée de la réalité des choses en allant voir 18 agences. Assurément non. Si je vais voir 18 restaurants, je ne peux pas faire une étude sur la restauration en France. Et d'ailleurs, même si je démontrais des écarts de prix entre les restaurants, tout le monde trouverait ça normal. Parce que chacun se rend compte que le cadre n'est pas la même chose, que le niveau de service n'est pas le même, et puis ce que j'ai dans l'assiette, c'est pas le même. Alors pourquoi vouloir qu'en termes de pompes funèbres, ce serait la même chose pour tout le monde ? Non, tout le monde ne travaille pas avec les mêmes véhicules, tout le monde n'a pas construit les mêmes maisons funéraires, on n'apporte pas les mêmes services, ce ne sont pas les mêmes cercueils, il n'y a pas les mêmes moyens humains et techniques qui sont mis en œuvre autour des obsèques. Donc c'est normal, il y a des modulations tarifaires.
Voilà la mise au point de Jean Ruellan. Vous remercie d'être passé par chez nous, leader français des services funéraires, c'est OGF. On peut prolonger tout ça, le débat bien sûr, sur notre page Facebook, RTL Les Auditeurs ont la parole. Est-ce que Christiane est encore en ligne avec nous depuis la fameuse
Ville
Rose ?
Oui, moi je suis encore en ligne.
Je vous embrasse et je vous envoie une montre RTL parce que vous êtes trop sympathique.
À bientôt Christiane.
À bientôt Christiane.
Rappelez-nous.